Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et surtout de pouvoir vous présenter un invité qui va nous époustoufler par les informations qu'il va nous donner. Je vous le présente tout de suite et je vous présente son livre parce que, en fait, je vais beaucoup m'appuyer sur cet ouvrage pour lancer mes questions. Puis l'idée, ça va être qu'on discute ensemble 40 minutes et puis ensuite on vous laissera la parole, on vous laissera poser des questions. Donc sachez que vous aurez la possibilité d'intervenir au cours de cet entretien. Alors, Marc-André Sellos, professeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, professeur à Gdansk, spécialiste des champignons depuis très longtemps. Est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter un petit peu comment cet intérêt pour ces choses qui ne passionnent pas forcément le grand public vous est venu, cet intérêt pour les champignons ?
Alors, les champignons ont ceci de particulier, c'est que dans leur vie de tous les jours, c'est des microbes, ils ne sont pas vraiment visibles à l'œil nu. Mais il y a certains d'entre eux qui, à un moment, se manifestent de façon visible. C'est ce qu'ils font à l'automne quand ils produisent leur spore, en fait, hein, quand ils se reproduisent, et qui font les girolles, les cèpes et tous les champignons qu'on peut voir par les prés, par les forêts, et qu'on peut éventuellement manger. Et quand j'étais en 5e, à l'époque, il y avait les champignons au programme de 5e en sciences naturelles, puisque c'était les sciences naturelles, et notre prof nous a dit, pour la semaine prochaine, ramenez-moi des champignons. Et j'ai trouvé ça absolument génial d'aller chercher ces trucs-là, d'essayer de voir les différentes espèces qui étaient présentes, et en fait, je suis resté bloqué sur la consigne depuis 43 ans. Alors, en fait, l'histoire, c'est que j'ai eu, moi, d'abord un intérêt pour les champignons, pour la reconnaissance des espèces. Et puis cet intérêt, il s'est modifié, il a mûri quand j'ai commencé à faire de la recherche en un intérêt pour leur mode de vie et leur écologie.
En parlant d'écologie des champignons, il me semble que les champignons, d'après ce que j'ai lu, sont très présents non seulement dans les forêts, mais aussi dans notre corps.
Oui, alors, ils partagent avec l'ensemble des microbes, dont on va en reparler, avec tous les groupes de microbes, le fait qu'ils sont un peu partout. Les microbes, ils sont petits, leurs cellules sont souvent beaucoup plus petites que les nôtres, et ils ont ceci comme propriété, qu'ils sont exactement comme une paire de chaussettes pour une valise. Il y a toujours une place pour une paire de chaussettes dans une valise, même quand elle est pleine. Hein. Et les microbes sont vraiment partout, et les champignons ne font pas exception à ça. Il y en a dans tout notre environnement, il y en a en particulier sur nous. Bon, par exemple, sur notre peau, il y a des champignons qui sont unicellulaires, qui sont des levures. Et ces levures, des fois, effectivement, ça donne un peu la pelade sur la peau quand ce n'est pas les bonnes levures. Mais la plupart du temps, leur présence est tout à fait inoffensive et au contraire, elle construit notre santé. Donc nous avons des champignons embarqués, oui. Pour le meilleur et pour le pire, mais en fait, le plus souvent, c'est pour le meilleur.
Pour avoir des exemples ?
Alors, des exemples de champignons, je pense que les plus intéressants sont ceux qu'on a sur la peau. Et d'ailleurs, leur rôle sur la peau, c'est un rôle qu'ils partagent avec des bactéries, hein. C'est un rôle, en fait, de fourrure naturelle. C'est-à-dire que quand nous sommes exposés à des attaques de microbes indésirables, ces organismes-là qui sont sur notre peau, pour eux, notre peau, c'est à la fois l'endroit où ils sont installés, donc c'est le gîte, mais c'est aussi l'endroit où ils mangent des sécrétions, où ils mangent des morceaux de peau morte, enfin toutes sortes d'aliments qui ne sont pas nocifs, dont le prélèvement n'est pas nocif pour nous, hein, mais des aliments qui font que pour eux, notre peau, c'est aussi le couvert. Et en réalité, au cours de l'évolution, évidemment, il y a eu une sélection qui a favorisé ceux de ces organismes, et notamment celle de ces levures sur notre peau, celle de ces champignons unicellulaires sur notre peau, qui étaient le plus capables de défendre leur gîte et leur couvert. Ce qui, pour nous, est un facteur de santé. Ça débouche sur une conséquence importante, c'est que quand aujourd'hui on a des savons ou des produits cosmétiques qui ont des propriétés bactéricides ou antibiotiques avec des spectres larges, même par rapport à des champignons, eh bien en fait, évidemment, ça nous épargne les indésirables, mais le problème, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est que ça nous prive de cette protection naturelle, de cet écran, de ce qui est vraiment une fourrure, même si elle n'est pas visible, une fourrure protectrice microbienne, et où il y a des champignons. On doit à la vérité dire qu'il y a aussi beaucoup de bactéries.
En parlant de ça, justement, les champignons, enfin les levures en tout cas, sont nos protectrices contre les microbes pathogènes. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans notre corps où les champignons ou les levures ou les bactéries sont nos protecteurs?
Alors, oui, en fait, c'est en fait une règle générale, hein, et je dois, comme mycologue, avouer que, les champignons ne sont pas les plus abondants sur notre organisme, hein, on est surtout dominé de bactéries, et on est dominé en tout point. Alors, déjà, physiquement, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en surface. Toutes nos surfaces sont peuplées de ces microbes. On comprend très bien que ces surfaces, comme la peau de mes joues ou mon coude, sont exposées au milieu. Mais il y en a aussi dans tous les creux de notre corps. Ces creux, c'est le tube digestif. Alors, c'est là qu'il y a sans doute le plus grand nombre de cellules de micro-organismes, de bactéries et de champignons. C'est le creux des oreilles. C'est les cavités nasales. C'est aussi, chez la femme, le vagin, qui est un endroit qui est littéralement protégé par des microbes, qui font des écrans, qui sécrètent des antibiotiques tout à fait extraordinaires, puisque récemment, on s'est aperçu qu'il y a une nouvelle génération d'antibiotiques qui étaient en test clinique, les thiopeptides. Donc ça, vous n'en avez pas entendu parler encore, parce qu'ils ne sont pas commercialisés. Et on s'est aperçu que ces thiopeptides que l'homme croyait avoir mis au point à partir de bactéries du sol faisaient partie de l'arsenal naturel dont disposent la plupart des femmes dans leur vagin. Elles ont des lactobacilles qui produisent ces thiopeptides et qui évitent l'installation de microbes indésirables. Donc, toutes nos cavités sont colonisées. Et si maintenant on fait un décompte de ces microbes, je vous ai dit, leurs cellules sont plus petites que les nôtres. Donc, il peut y en avoir beaucoup sans que ça prenne beaucoup de place. En fait, si on fait le décompte, on s'aperçoit qu'on a pratiquement autant de cellules de microbes que de cellules dans notre corps, de cellules humaines. Ça, c'est pour les microbes qui sont dans les cavités et puis sur la peau. Mais ce n'est pas tout. C'est là que ça devient absolument submergent. C'est qu'en fait, dans chacune de nos cellules, nous avons des parties de la cellule qui nous servent à respirer. La respiration, c'est le fait de prélever de l'oxygène, n'est-ce pas, pour consommer nos sucres et faire l'énergie. Et c'est comme ça qu'on bouge, qu'on grandit, qu'on se développe. Eh bien, les parties dans nos cellules qui effectuent la respiration, les usines respiratoires de nos cellules, qu'on appelle techniquement des mitochondries, on sait maintenant que ce sont des bactéries. Alors entendons-nous, ce ne sont pas des bactéries qui vivent dans la nature. Hein. Elles ne vivent plus que dans nos cellules. Et d'ailleurs, nous les transmettons de génération en génération. Ça fait partie des choses que notre mère a mis dans l'ovule et qui passent à la génération suivante. Donc, elles ne vivent plus jamais dehors, mais néanmoins, ce sont des bactéries. Ça veut dire que nos ancêtres ont appris à respirer en adoptant des bactéries. Et comme dans chacune de nos cellules, il y a entre 100 et 10 000 mitochondries, faites le calcul. Nous sommes bactériens, nous sommes microbiens numériquement. Alors, notre corps, effectivement, peut être vu comme une vaste construction microbienne. Et alors, ça pourrait paraître un espèce d'effet de manche, hein, de raconter ça comme ça, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que médicalement, le fait que nous soyons construits de microbes, ça détermine de nouvelles pistes thérapeutiques, ça explique des maladies.
Donc j'ai lu de façon assez stupéfiante que ça avait un impact sur le diabète, sur l'obésité, sur l'autisme. Est-ce que vous pourriez développer sur l'une de ces pistes?
Alors, les maladies en question ont deux caractéristiques. La première, c'est d'être en pleine recrudescence. En 10 ans, la fréquence de l'autisme a été multipliée par 3 dans les sociétés occidentales, par exemple. Autre maladie émergente, qui elle est plutôt une maladie du système immunitaire, la dermatite atopique. 30% des enfants qui naissent en ce moment auront ces problèmes de peau qui se traduisent par des rougeurs, des démangeaisons. Donc ces maladies dont on parle là, qui sont des maladies du système immunitaire ou des maladies du métabolisme comme le diabète ou l'obésité, ou des maladies du comportement et du fonctionnement du système nerveux comme l'autisme, la première caractéristique, c'est qu'elles sont en pleine explosion. On parle de maladie de la modernité. On pense que demain, un Européen sur deux sera atteint, demain en 2020, un Européen sur deux sera atteint de ces maladies. La deuxième caractéristique, c'est qu'on s'aperçoit que ces maladies corrèlent avec une composition différente des microbes qui nous habitent. Il faut bien comprendre que vous et moi, on est habités par entre 300 et 500 espèces de microbes. Levures, donc champignons unicellulaires, bactéries. Bon. Cette composition n'est pas la même d'un individu à l'autre. Et il y a des différences de composition qu'on retrouve systématiquement chez les individus atteints d'autisme ou systématiquement quasi systématiquement chez les individus atteints de diabète de type 1 ou de type 2, d'ailleurs, les deux diabètes. Et en fait, on sait deux choses. La première, c'est que souvent, quand on fait des antibiothérapies, les symptômes de ces maladies régressent. C'est notamment décrit dans le cas de l'autisme. On sait aussi que quand on fait expérimentalement, c'est encore très expérimental et en milieu hospitalier contrôlé, quand on fait des transplantations de flore, c'est-à-dire par exemple, on remplace la flore de mon tube digestif par la vôtre, quand on transfère la flore d'un individu non atteint d'autisme à un individu atteint d'autisme, on voit, pardon, c'est pour le diabète que l'expérience a été faite, pour être très exact, on s'aperçoit que les symptômes de diabète régressent. Puis petit à petit, ils reviennent au fur et à mesure que revient le type de microbe qui habite ordinairement cet individu. Donc on a plein de preuves expérimentales qui indiquent que ces maladies ont un déterminisme complexe, mais dans lesquelles rentrent les microbes qui nous habitent. Ça ne veut pas dire qu'ils déterminent tout. Il y a aussi les modes de vie, il y a aussi notre terrain génétique. Mais dans ces maladies complexes, une partie de ce qui nous rend malade, c'est de ne pas avoir la diversité microbienne d'un individu ordinaire.
Comment fait-on pour transplanter un microbiote ? Comment fait-on pour transplanter les bactéries ?
Alors, je suis désolé, parce que culturellement, c'est dégoûtant, hein, ce qui va suivre. Voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude, justement, on ne reconnaît pas cette patte microbienne qui nous habite. On ne reconnaît pas cette nature microbienne de notre physiologie. Du coup, ça va paraître dégoûtant. Mais enfin, on est tous des sacs à merde. Bon, regardons les choses en face. On est tous un emballage à un tas de microbes dans notre tube digestif, qui n'ont rien de répugnant dans la mesure où ils sont notre composition. Alors, évidemment, on n'a pas l'habitude de ce genre de raisonnement, mais l'idée, c'est très simple. Vous prenez un patient dont vous voulez remplacer la flore, et soit vous faites directement le traitement, soit pour être sûr que le traitement va marcher, vous lui collez une bonne antibiothérapie. Quand on prend des antibiotiques, ça détruit une grande partie des microbes qui nous habitent, notamment ceux qui habitent le tube digestif. Et quand on veut changer les microbes du tube digestif, ça peut être bien de retirer en grande partie ceux qui sont présents avant. Bref, le début du traitement, c'est de faire une petite capsule à délitement intestinal, donc ça ressemble à n'importe quelle capsule de médicament, dans laquelle on a mis tout simplement des excréments, ou alors même du contenu du tube digestif prélevé directement à l'intérieur du tube digestif de quelqu'un d'autre. Et donc on avale ça. Et si tout se passe bien, les microbes en question s'installent, ce qu'ils font surtout s'il y a eu une antibiothérapie avant. Ça, c'est ce qu'on appelle un transfert fécal. Alors, ces transferts fécaux, ils ont une histoire complexe. En fait, il y a des gens qui les ont faits bien avant que ça ait un nom, et bien avant que ce soit autorisé, et bien avant de le dire même à leurs malades. C'était des gens qui avaient repéré que dans certaines maladies, notamment des maladies du tube digestif à Clostridium, où des bactéries s'attaquent au tube digestif, provoquent des diarrhées atroces, des diarrhées qui vont nécroser le tube digestif, donc petit à petit les gens avancent vers l'ablation de parties de l'intestin successives. C'est des maladies assez atroces. Ils avaient repéré que l'antibiothérapie ne marchait pas. Quand on donnait des antibiotiques, bien sûr ça tapait sur la tête du Clostridium qui provoquait ces diarrhées nécrosantes, mais en même temps ça tapait sur la tête des autres microbes qui sont habituellement un écran qui protège le milieu et qui s'oppose à ce que se développent ces clostridies. Des clostridies, Clostridium difficile pour donner un nom latin, que vous et moi on a, hein, mais nous on les jugule parce que la diversité de microbes qui est autour fait écran. Et ces auteurs avaient commencé en douce d'abord, et puis ensuite ça, ils ont un petit peu formalisé la chose, à faire des transplantations fécales. Pourquoi ? Parce que, en général, la maladie revenait au bout de quelques temps, et ils avaient deviné que l'absence des autres microbes était aussi quelque chose qui allait poser problème. Et donc, après l'antibiothérapie, on rajoute les microbes, souvent de quelqu'un de la famille, ou bien tout simplement de la diversité microbienne prélevée sur l'individu quand il est en rémission. Et ce qui se réinstalle tout de suite, c'est une flore extrêmement diverse qui va faire écran au Clostridium. En d'autres termes, cette histoire-là, elle a fini par percer parce que le taux de rémission de ces maladies-là avec les antibiotiques était de 5%. Dans 95% des cas, les gens revenaient à l'hôpital 15 jours plus tard, et puis ils y revenaient jusqu'à des ablations de l'intestin qui sont quand même assez... Voilà. Enfin, c'est des gens dont on annonçait un avenir sombre, et après transplantation fécale, 80% des malades ne se représentent pas à l'hôpital. Ils sont guéris. Alors c'est un cas extrême. Mais ça a été quelque chose qui a aidé à prendre conscience que dans certains cas, on pouvait guérir avec des microbes. On est loin, évidemment, aujourd'hui, même si on y pense très fort, de soigner l'obésité ou le diabète avec ça. Mais dès lors qu'on a vu que ces micro-organismes modifiaient l'état de maladies liées, enfin, métaboliques ou même du système immunitaire dans les maladies auto-immunes ou des maladies du comportement, on se dit que demain, il y a une perspective curative à ça. Et en creux surtout, parce que là, on est en train de dire qu'il y a des microbes qui rendent obèses ou des microbes qui rendent diabétiques, mais ce que ça veut dire en creux quand même, c'est que tous les jours, si je ne suis pas obèse, si je ne suis pas diabétique, tous les jours quand je fonctionne bien, c'est aussi à cause des microbes. Hein.
Justement, dans le transfert, c'était le transfert par quelqu'un de proche de la famille. Pourquoi quelqu'un de proche plutôt que n'importe qui ?
Il y a deux raisons. Une raison culturelle qui est que dans un transfert fécal, c'est quand même un peu moins écœurant si ça vient de quelqu'un qu'on connaît ou de proche. Enfin, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est clairement quelque chose qui contribuait à rendre la chose plus acceptable par les malades. L'autre chose, c'est que les gens avec lesquels on vit, ils sont dans le même environnement. Et donc, s'ils ont de façon stable une certaine diversité microbienne, c'est qu'elle est équilibrée, c'est qu'elle peut se développer dans cet environnement-là. Du coup, ça permet de récolter des microbes qui peuvent vivre là où on vit soi-même. Vous voyez, c'est un transfert à partir d'une communauté de microbes qui peut exister dans l'appartement où on vit et avec les habitudes alimentaires que l'on a. Puisque ça, c'est des facteurs modificateurs de notre diversité microbienne, notre environnement alimentaire, notre lieu de vie. Mais on n'est pas obligé. Et je vais vous dire, dans la manip qui avait été faite pour voir si des transferts d'individus sains vers des individus diabétiques... Ah non, ça c'est encore une autre manip, pardon. C'était une maladie, c'est la maladie, la sclérose en plaques, où on a transféré des microbes d'individus sains vers des individus atteints de... Je raisonne lentement aujourd'hui, c'était... Je suis désolé, c'est toute une liste de mauvaises nouvelles. C'était la... maladie de Crohn, donc une maladie du tube digestif où le système immunitaire détruit le tube digestif. Il y avait deux donneurs, et il y a un des donneurs qui a amené à l'amélioration de la condition intestinale de 40% des receveurs, alors que l'autre donneur, aucun. Donc en fait, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'en plus, en termes de capacité à donner une flore qui peut vraiment s'installer chez quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas tous égaux. C'est un peu comme pour les transfusions sanguines, on s'aperçoit qu'il y a des individus qui ont des microflores, enfin qui ont des diversités microbiennes plus capables de s'installer chez les autres que d'autres. Donc demain, je pense qu'on n'utilisera pas la famille, on utilisera des bons donneurs, si tant est qu'on développe largement ce genre de méthode.
Et comment acquiert-on cette flore ? Bébé, tout bébé ?
Oui, alors ça, c'est l'autre problème. C'est cette flore, il faut qu'elle s'installe à un moment parce que lorsque nous naissons, nous venons du ventre de notre mère où nous sommes complètement dépourvus de microbes. L'installation de ce microbe, c'est quelque chose d'assez délicat. Hein. Là, il y a un papier qui vient de sortir dans la revue Cell qui montre sur un suivi d'une très très grande population que c'est une trajectoire chaotique. Les premières années, il y en a qui s'installent, qui s'en vont, il n'y a pas toute la diversité habituelle. En fait, c'est à 3 ans qu'on acquiert une diversité microbienne qui ressemble à celle de l'adulte. Vous voyez, il faut pratiquement autant de temps pour acquérir ces microbes que pour apprendre à parler. Or, c'est vital. Et vous savez que si les enfants poussent souvent les jeunes enfants poussent souvent des cris, c'est pas que pour faire chier, hein, c'est que très souvent, ils ont réellement des problèmes digestifs, des diarrhées, des difficultés à digérer. En fait, ils n'ont pas cette aide que les microbes accordent aux adultes parce qu'ils ne sont pas encore complètement équipés. Alors, justement, comment arrive cet équipement ? Le tout premier, il est obtenu lors du transit dans le vagin maternel à la naissance. On récupère des bactéries du vagin, et puis il faut bien dire les choses comme elles sont, à l'accouchement ça se passe un peu en vrac, et il y a aussi quelques contaminations fécales. Et ça c'est donc le premier cadeau de notre mère, c'est notre premier début de flore. Vous allez voir que notre mère fait encore beaucoup d'autres choses. Vous avez vu tout à l'heure qu'elle nous donnait nos mitochondries d'ailleurs, puisque c'est par elles qu'on reçoit ces petites bactéries qui permettent à nos cellules de respirer, c'est par elles qu'on reçoit notre premier cadeau microbien. Bon, c'est à tel point que les enfants nés par césarienne ont une composition du tube digestif différent, au départ, et qu'aujourd'hui, il y a de grands programmes pour tester la compensation des césariennes par l'exposition de l'enfant au niveau buccal à des frottis vaginaux maternels, pour justement avoir un apport de bactéries vaginales qui n'ont pas eu lieu. Mais il y a plus. Dans ce que nous donne notre mère, il y a une dernière chose qui est dans le lait et qui va être absolument déterminant pour aider à une installation rapide de bactéries favorables. Alors, ce qui suit inscrit en lettres de feu dans notre biologie le fait que nous sommes composés de microbes. Dans le lait maternel, il y a du lactose, qui est un sucre qu'il y a dans tous les laits. Il y a des lipides, bon, ça, il y en a dans tous les laits de mammifères. Il y a des protéines, mais les protéines ne sont pas le troisième composant par ordre d'abondance. Le troisième composant du lait maternel par ordre d'abondance, ce sont des polysaccharides. Terme technique qui cache des trucs que l'enfant ne digère pas. Autant vous dire que comme les enfants ne digèrent pas ce composant, même s'il est abondant, on ne le met pas dans les laits artificiels. Sauf que ce qu'on a découvert, c'est que ces polysaccharides sont digestes pour les bifidobactéries et pour certains lactobacilles dont justement l'installation rapide dans le tube digestif de l'enfant permet d'acquérir rapidement un minimum d'aide à la digestion, d'écran contre les maladies. Ça veut dire que le troisième composant par ordre d'abondance dans le lait maternel ne nourrit pas l'enfant, il nourrit des bactéries souhaitables. Donc, c'est encore un cadeau de maternel, mais aussi, ce que ça montre, c'est que vraiment, notre dépendance est forte et qu'on doit être vite et bien colonisé. Et c'est ça le problème qui se produit aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il y a tous ces éléments-là, mais comme on a une hygiène accrue, eh bien, les bactéries n'arrivent pas. En plus, on a souvent supprimé, dans les laits synthétiques, on n'a pas du tout ces polysaccharides. Alors, ces polysaccharides, d'ailleurs, j'aimerais vous convaincre que, même adulte, vous en avez besoin, car c'est les composants des fibres. Tout le monde vous dit, faut manger des fibres. Vous savez peut-être que les Français ne mangent que la moitié de la ration de fibres conseillée. Mais c'est bizarre, parce que les fibres, on ne les digère pas. Je vais vous dire, c'est des polysaccharides. Essentiellement. Et bien voilà. S'il faut manger des fibres, c'est parce que, même adulte, on a besoin de nourrir ces microbes. Et si on ne les nourrit pas, alors on laisse s'installer d'autres types de microbes que ceux qui sont souhaitables pour une bonne santé et on dérive vers une des portes d'entrée pour dériver vers des présences microbiennes, des communautés microbiennes qui vont sceller des états pathologiques du métabolisme par exemple, comme l'obésité, ou dans le jeune âge, qui vont sceller des développements du système nerveux qui conduisent à des comportements inhabituels. Donc il faut penser, même quand on est adulte, à nourrir ces bactéries. Mais clairement, notre maman y a pensé avant nous.
Donc, de ce que vous venez de nous raconter, essentiellement, les bactéries sont essentielles pour nous. Comment est-ce qu'on en est arrivé à dépendre autant des bactéries ?
Oui, parce que là, ce qu'on a dit, c'est que finalement, le bon développement du système immunitaire et son bon fonctionnement dépend de la présence, à certains endroits dans notre organisme, de micro-organismes, de bactéries et de certains champignons favorables. On a vu que notre comportement est sous dépendance, et la formation, le développement de notre système nerveux aussi. Et puis que la régulation de notre métabolisme en dépend. Et là, on se dit, mais enfin, pourquoi on ne gère pas tout ça de façon autonome ? Après tout, on est capable, avec notre équipement génétique, de gérer des choses qui font des choses complexes comme une main. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas embarqué dans notre programme génétique la capacité à faire toutes ces choses-là, d'autant plus qu'elles paraissent nécessaires ? Alors là, c'est là qu'il faut voir comment on a évolué. N'en déplaise à certains, nous sommes issus de centaines de millions d'années sans douche. Et on a été fabriqué par ça, et pas par la douche. Depuis aussi longtemps qu'on est pluricellulaire et qu'on a des cavités et des surfaces exposées à la colonisation des microbes, on est habité de microbes. Vous y êtes, ils sont là. Bon. Maintenant, imaginez que dans l'évolution, on commence à acquérir une nouvelle fonction, comme la régulation de la glycémie, comme le développement d'une partie du système nerveux qui n'existait pas chez l'ancêtre. Comment dans l'évolution peut se passer la création d'une nouvelle fonction ? La première façon, c'est que des mutations permettent à l'organisme de fabriquer lui-même cette nouvelle fonction. Et ça arrive. Nous sommes le produit de nos mutations aussi. Mais il y a aussi des fois où l'organisme peut simplement s'appuyer sur quelque chose qui existe autour de lui. Recruter quelque chose qui existe autour de lui. Quand nos très lointains ancêtres ont commencé à respirer, ils n'ont pas gagné tous les gènes qui permettent de faire la respiration. Ils ont chopé une bactérie qu'ils ont élevée à domicile, qu'ils ont élevée en captivité, si vous voulez, dans les cellules, et qui a fait la respiration pour eux. Ils se sont appuyés sur quelque chose, ils ont réutilisé quelque chose qui avait eu son évolution propre et qu'ils ont capturé. Eh bien, comme à la naissance, nous sommes colonisés par des microbes et que ceci est renforcé par le fait qu'en plus, dans le lait maternel, il y a des choses qui stabilisent la présence de ces microbes, on peut utiliser l'entrée des microbes dans le tube digestif comme un signal, une sorte d'interrupteur qui dit « Bon, allez, hop, c'est le moment de faire telle maturation du système nerveux ou de mettre en place telle population de cellules du système immunitaire. » En d'autres termes, dans notre évolution, il y a à la fois des choses qui sont construites par nos propres mutations. C'est une évolution que j'aurais tendance à appeler, alors on va parler un peu grec, autogène, quoi. C'est celle qui est auto-générée, celle que nous produisons nous-mêmes par nos mutations. Et puis, il y a une autre part de notre évolution qui est construite, on dit maintenant souvent co-construite, mais c'est un peu un pléonasme, qui est co-construite où on recrute simplement un microbe comme signal ou un métabolite de microbe. Bon, par exemple, vous voyez, on peut parler aussi de l'humeur. On sait qu'il y a un certain nombre de microbes qui modifient notre humeur, et une des raisons, pense-t-on, de ça, même si la preuve est loin d'être apportée tout à fait définitivement, c'est que 80% de la sérotonine, qui est quelque chose qui contribue justement au bien-être dans l'organisme, qui est une hormone et aussi quelque chose qui modifie le fonctionnement du système nerveux, 80% de la sérotonine de notre organisme est synthétisée par des bactéries. Pourquoi ? Mais parce que quand on a commencé dans notre évolution à utiliser la sérotonine, il y avait des usines à sérotonine dans notre tube digestif. Bon, ben voilà, hein, il suffisait de les recruter. Et le lendemain, on s'aperçoit que quand on retire ces usines-là, ben, ça corrèle avec des états dépressifs. Voilà, c'est tout aussi simple. C'est qu'à un moment, vous évoluez en vous appuyant sur quelque chose qui existe. Mais le lendemain, cette chose qui était un passager sans effet et sans conséquence, c'est devenu un pilier. Et vous avez scellé quelque chose qui est important, qui est la dépendance, et qui fait que nous ne sommes pas des individus. Individu, étymologiquement, ça veut dire indivisible. Nous ne sommes pas des individus, nous sommes des communautés microbiennes dont un des microbes est plus gros que les autres et les emballe.
Nous sommes donc un gros microbe.
Oui, et pas le plus intéressant à regarder techniquement, puisque c'est les autres qui font l'essentiel des fonctions.
Alors, justement, là, on a l'impression que nous sommes les utilisateurs de microbes. J'ai envie de poser la question du symétrique. Est-ce que les microbes nous utilisent ?
Alors, il n'y a pas de complot. Eux aussi, pour le coup, ils sont devenus dépendants. Vous savez, les fameuses bifidobactéries qui profitent du lait maternel pour s'installer dans le tube digestif, elles sont très, très spécialisées dans l'utilisation du lait maternel et des fameux polysaccharides que l'on trouve dans le lait maternel, en sorte qu'elles vivent surtout là, et que donc la dépendance est réciproque. En fait, il s'agit de coévolution, c'est-à-dire que chacun évolue au contact de l'autre et on finit par tisser un lien qui est un lien réciproque. Alors évidemment, vous et moi, nous nous intéressons plus à l'homme qu'aux bifidobactéries ou aux malassezia ou aux candida, pour parler de levure, ou aux lactobacilles. Donc on aime bien souligner notre dépendance aux microbes parce que ça nous paraît si réaliste. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont la même dépendance. Et il y a peut-être quelque part dans un recoin de mon intestin une utopiale de bactéries où une bactérie explique aux autres la dépendance en montrant comment les bactéries, malgré une longue histoire évolutive, ne sont pas des individus autonomes. La même histoire s'écrit des deux côtés. C'est l'histoire de la dépendance. Et c'est une histoire que nos sociétés devraient méditer parce que c'est un des points d'approche qui doit nous réconcilier avec la nature dont nous ne sommes qu'un morceau. Nous avons longtemps pensé que les individus étaient à la fois indivisibles et complètement autonomes. Nous avons longtemps pensé que nos sociétés pouvaient se construire sans lien au monde naturel. Mais tout ça, c'est la même foutaise. En fait, tout est dépendance. Tout est réseau d'interdépendance. Et effectivement, nos microbes sont dépendants. Sans doute entre eux, d'ailleurs, ils ont peut-être des liens entre eux assez de dépendance forte. Et à nous, la plupart d'entre eux ne vivent pas hors de nous.
Alors, on a parlé de douche tout à l'heure. Dans notre imaginaire, en tout cas, ne pas se doucher, c'est sentir mauvais.
Oh ben c'est même plus qu'imaginaire. Hein. C'est vérifiable par l'expérience. Alors, oui, c'est vrai. D'abord parce que nos microbes, en fait, fermentent les sécrétions de notre peau, notamment dans les plis ou à l'orée des glandes qui produisent le sébum, qui est cet enduit gras qu'on a sur la peau, il y a des microbes qui vont fermenter ça et produire des acides gras volatiles, butyrate, propionate. Bon. Alors d'ailleurs, ça c'est très intéressant parce que quand ils fermentent, ils font des dérivés dont je vous ai donné le nom qui sont acides. Ils acidifient la peau et cette acidification de la peau, c'est la première protection de la peau. C'est que dans un milieu acide, la plupart des bactéries vont mal se développer. Donc les indésirables vont mal se développer. Je refais une parenthèse, c'est d'ailleurs une des protections majeures du vagin chez la femme, hein, qui est protégée par une acidification de 1 à 2 points de pH. Ça veut dire que en présence des microbes, des lactobacilles qu'il y a dans le vagin, on a 10 à 100 fois plus de protons, et ça, c'est antibiotique. Bon. Mais le problème, c'est que cette fermentation produit aussi des molécules aromatiques, et c'est ça l'odeur qui vient progressivement après la douche. C'est l'odeur des fermentations microbiennes. Nous ne sentons pas tellement pour le nez humain, mais nos microbes ont des métabolites qui sentent. Une remarque cependant. Plus vous vous douchez, plus l'organisme va sécréter de sébum pour restituer ce film protecteur, protecteur largement parce qu'il appelle des bactéries protectrices, n'est-ce pas ? Plus l'organisme va le resynthétiser. Et donc, plus vous vous douchez souvent, plus vous faites de sébum, plus vous sentez vite. Et j'ai des copains qui, pour des raisons de randonnée ou autres, ont fait l'expérience, et il y en a peut-être dans la salle, de ne pas se doucher pendant 15 jours. Et en fait, au début, ça sent fort, et puis ensuite... Ben, ça sent moins fort. Il y a des parties de l'organisme qu'il faut effectivement nettoyer assez régulièrement. Mais en réalité, nous sommes rentrés dans un régime de dépendance à la douche qui est sans doute accru par rapport à ce que devrait être l'optimum. En tout cas, une douche par jour, ce n'est pas raisonnable. Et surtout, ce qui n'est pas raisonnable, bien sûr, on le comprend maintenant, c'est des douches avec des savons très agressifs et antibiotiques, même si on aime bien des savons bactéricides ou des savons qui favorisent l'hygiène de la peau en tuant les microbes. Aux États-Unis, le triclosan et le tricocarban, qui sont deux bactériostatiques très utilisés dans les savons, sont maintenant interdits. Ça conduit à retrait ou à la modification de plus de 2000 spécialités de nettoyage sur le marché américain. Ça a été du lourd parce que aujourd'hui, on voit très bien que c'est pas nécessaire de mettre des bactériostatiques ou encore pire des antibiotiques dans les savons, sauf si on a une plaie à nettoyer ou sauf cas pathologique. Mais ordinairement, il vaudrait plutôt viser à respecter cette fourrure naturelle protectrice de notre peau.
Qu'est-ce que tu peux regarder là ? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait de signe. Ah, il est 35. On laisse parler le public ?
Oui, je pense que...
Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir maintenant les questions. On a une petite idée. Alors, on est resté essentiellement sur le corps humain. Mais il faut savoir que ce genre de fonctionnement est généralisé.
Tous les animaux, toutes les plantes, même les champignons sont habités aussi de microbes. Enfin, c'est universel. Il n'y a pas d'exception à la dépendance, et notamment à la dépendance aux microbes.
Et donc j'ai envie d'ouvrir aux questions, et j'ai vu qu'il y avait déjà un monsieur qui voulait en poser une.
C'est quoi le bon rythme pour la douche, alors ?
Bon, alors, je dois vous faire un aveu. Je ne suis ni médecin, ni diététicien, ni agronome. Et donc, en fait, mon métier comme microbiologiste, c'est d'avoir vu qu'il y avait de contribuer à cette construction d'une vision du monde habitée fonctionnellement par des microbes. Et après, ce n'est pas à moi de vous donner des conseils pour la santé pour deux raisons. C'est personnel. Il y a des gens qui ont une peau qui font que s'ils ne se lavent pas tous les jours, ben, ça va être socialement handicapant. Bon. Il y en a d'autres, pas se laver pendant 3 ou 4 jours, ça va, c'est pas gênant. Et puis, il faut aussi trouver son rythme. Donc, il n'y a pas de consigne universelle. Les consignes universelles, c'est les mauvais gourous qui les donnent. Mais vous aurez des consignes universelles sur Internet si vous cherchez bien. Il y a des mauvais gourous partout. La deuxième chose, c'est qu'en fait, cette prise de conscience de cette présence microbienne, il y a quand même un obstacle. Vous comprenez bien que ce n'est pas le moment non plus de faire rentrer, en baissant la garde, de faire re-rentrer toutes ces maladies contagieuses dont on s'est quand même débarrassé avec avantage depuis un siècle d'hygiène. Donc, l'hygiène qui va avec une conception microbienne de la santé, il en va de même d'ailleurs de l'agriculture qui va avec une conception microbienne de la vie du sol et du développement des plantes. C'est à trouver. comprenez bien que la médecine chimique, ou d'ailleurs l'agriculture chimique, celle qui repose sur des engrais et des pesticides notamment, on l'a composée pour qu'elle soit efficace au sens de ses critères d'efficacité. Ces disciplines ont été constituées autour de 150 ans d'expérience, d'essais, d'erreurs. Et maintenant, on sait quoi donner à quel moment à une plante, quel savon donner à quelle peau à un moment. Vous voyez. Donc, on a... Et c'est une autre raison de ne pas donner tout de suite de conseils. On a à trouver le savoir-faire et les techniques qui vont avec cette vision et qui permettent de réimporter les bons microbes sans laisser rentrer les mauvais. Bref, j'aurais tendance à vous dire que pour ce qui est de la douche, moi je l'ai fait. Faites des expériences, voilà. Et bon, voilà, pour être très personnel, hein, moi, 2 ou 3 jours sans douche, ça va. Au-delà, bon... C'est pas bon. Voilà. Alors après cet aveu intime, je vous laisse nous faire part du résultat dans un an.
Une autre question ?
Bonjour. Alors moi, je voulais savoir s'il existe un projet de séquençage du microbiote humain comme on peut faire actuellement avec l'ADN, et savoir aussi si on retrouve des points communs au niveau des microbiotes des différentes espèces entre l'homme et les animaux.
Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, on a pensé à un moment, on a dit oui, c'est fini, la biologie des cabinets de curiosité du 18e, où on entasse des choses, c'est fini. Mais en fait, ça n'a jamais été fini. En fait, les biologistes, dès qu'ils peuvent faire un inventaire, paf, ils y vont. Et donc, on a fait l'inventaire du génome humain, hein, ça s'appelle le séquençage du génome humain. Quand ça a été fini, bon, ben maintenant, il y a des gens qui essaient de faire le séquençage de l'épigénome humain. Et effectivement, on a eu plusieurs grands programmes, dont le programme MetaHIT, avec un H, MetaHIT, si vous voulez aller sur Internet pour voir ça. On a eu à la fois un programme américain et un programme européen de séquençage de ce qu'on appelle donc le microbiote. Hein, ou des fois on dit microflore, c'est un peu le vieux terme ça, mais des communautés microbiennes de l'homme, je devrais dire plutôt des hommes, parce qu'on s'aperçoit que d'un homme à l'autre, ces communautés ne sont pas les mêmes. Donc il y a des gens qui ont d'emblée séquencé ce qu'on avait dans le tube digestif, et il y a aussi des programmes qui regardent tout ce qu'on a sur la peau, et qui regardent non seulement quelles espèces sont là, mais quels gènes sont présents dans ces espèces. Et là on s'aperçoit que par exemple dans le tube digestif, l'ensemble des gènes présents et donc potentiellement des fonctions et des mécanismes d'action et d'influence. L'ensemble des gènes présents dans notre microbiote digestif, c'est 10 fois l'ensemble des gènes de notre génome. Vous voyez qu'on parle souvent de l'homme étendu, mais on l'est déjà, d'un facteur presque 10 par les gènes présents dans les microbes que nous abritons. Donc oui, il y a des programmes d'inventaire. Ces programmes d'inventaire révèlent d'ailleurs que nous nous rattachons souvent à des grands archétypes. Il y a 3 grands types de microbiote du type digestif, c'est ce qu'on appelle les entérotypes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui tombent entre les types, pour le coup. Et la question était donc de savoir notre lien aux animaux en ce sens. Alors, déjà, il y a les hommes et les hommes. Quand vous prenez des gens qui n'ont pas été contactés par la civilisation occidentale et la globalisation, on s'aperçoit qu'ils ont un microbiote très différent, beaucoup plus riche. Et d'ailleurs, beaucoup plus partagé d'un individu à l'autre. Ça a été fait chez des tribus d'Amazonie, les Yanomami en particulier. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas notre hygiène. Donc, ils souillent tout avec leurs microbes et ils se contaminent avec toutes les souillures. Du coup, entre individus qui coexistent, les microbes circulent beaucoup plus vite. Et on se rend compte que nous, occidentaux, finalement, nous avons en gros 2 fois moins d'espèces hein, que des individus donc, de ces tribus non contactées qui vivent loin de l'hygiène occidentale. On a des stades intermédiaires avec des gens qui sont plus ou moins en contact de la civilisation occidentale et qui ont plus ou moins d'hygiène. Mais c'est donc tout un gradient. Hein. Mais nous, en Occident, nous sommes devenus des citadelles imprenables à cause des mains qu'on nettoie, des aliments qu'on fait bouillir, des couverts qu'on nettoie. Bon. Il y a des tribus africaines qui, après la chasse, hein, elles grillent grossièrement l'intestin des antilopes qu'elles ont abattues et elles les mangent avec le contenu. Alors ça, on fait « Ah, bah oui, parce que culturellement, nous, on a développé des pratiques antimicrobiennes. Et du coup, nous sommes devenus effectivement inaccessibles aux microbes et nous sommes sous-colonisés. Et tiens, ça explique que certains, étant sous-colonisés, finissent par dysfonctionner. Car quand vous appauvrissez un écosystème, vous baissez le nombre d'espèces, mais à un moment, vous baissez le nombre des fonctions qui sont remplies dans cet écosystème. Et vous arrivez à un moment où vous abîmez certaines fonctions par perte de diversité qui sont vitales pour aider le système immunitaire, aider à la régulation de la glycémie, aider au développement du système nerveux. C'est ça qui s'est passé. Donc déjà, d'un homme à l'autre, on n'a pas la même chose, et d'une culture, d'une civilisation à l'autre, on n'a pas la même chose. Alors maintenant, par rapport aux hommes, ben, clairement, nous sommes, par rapport aux autres animaux, pardon, nous sommes clairement des primates, voilà. Et parmi les primates, nous portons la marque forte dans notre microbiote d'une tendance à une alimentation omnivore très enrichie en viande. Et ceci d'une façon universelle, hein, et pas simplement culture dépendante. Ce qui inscrit bien, je trouve, dans notre biologie, le fait que nous sommes essentiellement des omnivores. Ça ne veut pas dire qu'on a vocation à le rester. C'est parce que c'est écrit dans notre biologie qu'il faut le faire. Hein. Mais en tout cas, biologiquement, voilà, nous avons une marque d'omnivore, nous avons une marque de primate, et parmi les primates, une marque d'omnivore tendance bonne présence de la viande dans le régime alimentaire. Ça répond à votre question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça arrive.
Bonjour, vous avez parlé des microbes, enfin, ou des bactéries dans le lait maternel. La composition du lait maternel évoluant au fur des semaines, mois. Comment est-ce que ça se passe également pour ces bactéries, et comment est-ce qu'elles sont produites par la mère ? Est-ce qu'elles sont produites en fonction de l'évolution du lait, ou est-ce qu'elles sont déjà présentes ?
Alors, en fait, ce que j'ai indiqué, c'est qu'il y a dans le lait maternel des aliments. Mais les bactéries ne viennent pas du tout des glandes mammaires qui, elles, ne produisent que du lait au sens d'une solution avec des globules de lipides dedans. Hein. En revanche, dans le lait maternel, il y a des bactéries qui, notamment, en fait, ont colonisé la glande mammaire à partir du mamelon, hein, et qui rentrent dans les canaux qui drainent le lait. Ce sont surtout des streptocoques. Et de ce point de vue-là aussi, la tétée est un geste contaminant pour l'enfant. Enfin, des gestes contaminants, il en a plein. Hein. Notamment, les enfants mettent tout dans la bouche. Leurs parents passent leur temps à leur dire « ne mets pas ça dans ta bouche ». Et on se demande finalement s'ils leur font un si grand cadeau que ça en les empêchant de mettre des choses dans la bouche. Donc le lait maternel, il est contaminant parce qu'il passe finalement contre la peau et contre les parties terminales du mamelon où il y a effectivement des bactéries. Voilà. En fait, par rapport à ce qui s'installe en nous, il y a deux choses importantes et qui évoquent la façon dont on peut gérer un jardin. Vous savez, quand vous voulez un jardin, vous semez les graines de ce que vous voulez voir pousser, première chose, et deuxième chose, vous mettez des engrais ou des choses qui aident à pousser, ou un peu de fumure organique, enfin, vous modifiez le sol d'une façon qui aide à pousser vos radis, ou vos bruyères, si vous avez envie de bruyères, bon. Et ça, on a exactement la même chose dans les stratégies possibles, et d'ailleurs établies en pharmacie, pour le tube digestif. Vous pouvez directement ensemencer les micro-organismes que vous voulez. Et on peut avoir des stratégies qu'on appelle des stratégies de probiotiques, où on donne des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries dont on veut qu'elles s'installent. Quand vous achetez des probiotiques en pharmacie, c'est en fait des bactéries dont vous espérez qu'elles vont s'installer. Moi, ce que je prétends, c'est qu'on est encore loin de savoir si elles s'installent, et dans le cas où elles s'installent, qu'est-ce qu'elles font de bien. Il y a un très beau doublé de papier dans Cell il y a un mois, que j'avais eu l'occasion de commenter dans La Tête au Carré, donc il y a un replay là-dessus, si ça vous intéresse, qui montre que oui, il s'installe, mais ça exclut plutôt les habitants ordinaires, donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Bon, ça, c'est les probiotiques. La première façon de faire en sorte qu'il y ait la flore que l'on veut, c'est d'amener les protagonistes. C'est l'équivalent des graines dans le jardin. Puis l'autre façon, et c'est celle que nos mamans pratiquent avec ces fameux polysaccharides du lait maternel, l'autre façon, c'est de donner les aliments qui permettent à celles que l'on souhaite de s'établir, de proliférer plutôt que les indésirables. C'est aussi donc ce que permettent les fibres. Et puisque nous parlons de ça, il y a aussi, bon, vous savez que vous pouvez sarcler un peu votre jardin, il y a quand même aussi d'autres méthodes un peu plus fines. Et dans le lait maternel, il y a au début du développement beaucoup d'anticorps. Vous l'avez peut-être entendu. Ça fait d'ailleurs que le lait maternel est très très riche en protéines au départ. Pour ceux qui connaissent plus le lait de vache, c'est le fameux lait dont on fait des phares, hein, Enfin, moi, je suis breton, donc je sais que les premières traites de vaches après l'accouchement, on avait un lait très riche en protéines qui faisait des super phares très, très particuliers. Bon, c'est en fait que ce lait est très riche en anticorps, et on sait aujourd'hui que ces anticorps permettent, favorisent l'installation des microbes les plus favorables aussi. Et ça, c'est pas parce que c'est... En gros, on a l'impression que ça les retient dans le tube digestif, en gros. Ça les empêche de partir. Enfin, l'image qu'on en a n'est pas encore très claire. Mais vous voyez qu'il y a à la fois des procédés directs et indirects, l'inoculation, et ensuite tous les gestes qui indirectement favorisent la rétention des plus favorables.
Je voudrais savoir si un régime alimentaire dans lequel on exclut tous les produits d'origine animale a une influence sur le microbiote. Alors, positif, j'imagine, ça on l'a déjà dit parce que ça augmente le pourcentage de fibres. Mais est-ce que en faisant ça, on n'exclut pas certaines espèces de microbes ? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de certaines fonctions du coup ?
Alors, c'est bon quand on répond à des questions de dire des fois je sais pas. Parce que ça veut dire qu'au moins on sait l'avouer. En fait, j'ai pas beaucoup de travaux là-dessus que je connaisse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les gens qui sont véganes, mais alors véganes, hein, depuis longtemps, ont une microflore, un microbiote, si vous préférez, différent. Ça, c'est clair, c'est connu, c'est répertorié. Ils ont notamment perdu un certain nombre de bactéries qui semblent avantageuses par la viande. Et notamment, alors là, vous avez trouvé que c'est une bonne nouvelle, mais j'ai cette bonne nouvelle isolée, mais on est loin d'avoir l'ensemble du paysage. Ils perdent les bactéries qui fabriquent de la triméthylamine. Alors, la triméthylamine, c'est une molécule qui est dérivée de la carnitine, qui est quelque chose qu'on a dans la viande, hein, qui est un produit qui est présent dans la viande. Et cette triméthylamine a un petit défaut, c'est que notre foie la transforme en oxyde de triméthylamine, qui est un agent qui conduit à l'athérosclérose, qui favorise l'athérosclérose, c'est-à-dire le bouchage, en gros, des veines par le gras, et ça conduit à augmenter la fréquence des incidents cardiovasculaires. Donc, si vous prenez cette histoire isolée, vous allez me dire, ah bah, c'est génial, parce qu'on perd des bactéries, en effet, et pour le coup, on en perd, qui nous rendent un service douteux par rapport à la santé. Bon, sauf que, de toute façon, les véganes n'ont plus de carnitine, et donc, ils n'ont plus de risques liés à ça. Mais on est loin d'avoir une image d'ensemble. Hein, et donc, je me garderai de conclure que ça donne un meilleur microbiote. Je crois très fondamentalement que nous sommes omnivores et que là, l'équilibre compte. C'est-à-dire, c'est pas la peine de bouffer de la viande comme des fous, quoi. On est à environ 100 kilos par personne et par an, en moyenne. Vous y êtes ? Et on pense qu'à 25 kilos, c'est bon, en termes de santé. Donc, on mange trop de viande. Par contre, manger de la viande, ben, c'est pas aberrant parce qu'on y trouve un certain nombre de vitamines qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. De la viande ou d'ailleurs des produits animaux. Des produits d'origine animale. Ceci étant posé, on est loin d'avoir aujourd'hui une image globale de ce que, à ma connaissance, hein, de ce qu'un microbiote de vegan fait ou ne fait pas, et est-ce que c'est une plutôt bonne ou une plutôt mauvaise nouvelle.
Ah, est-ce qu'il y a une autre question ?
Oui.
Bonjour. Ok. Ouais, du coup, je me posais une petite question, sachant que je suis complètement néophyte. C'est est-ce que nos bactéries peuvent affecter nos relations sociales avec les autres du fait qu'elles réagiraient avec celles des autres, en fait. Et du coup, qu'elles pourraient être attirées ou l'inverse, socialement parlant, en fait, indépendamment de notre volonté. C'est un peu bizarre.
Ah non, non, mais pas du tout, pas du tout. Alors, d'abord, il n'y a pas de néophytes, d'accord ? Il n'y a que des gens qui croient qu'il y a dans leur expérience la réponse aux questions qui se posent. Ce n'est pas forcément ceux qui gagnent. Hein. Donc, ce n'est pas une question bête. Et d'ailleurs, en fait, je pense qu'on est tous néophytes sur cette question-là. Deux choses. Petit A, on sait que des microbes peuvent manipuler le comportement. Ça, on le sait. Vous savez, quand la toxoplasmose, par exemple, est réputée être une infection qui n'est pas grave, sauf quand elle se produit chez une femme enceinte, auquel cas elle peut entraîner l'avortement. C'est pour ça qu'on écarte les chats et la viande crue des femmes enceintes. Bon. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les gens qui sont atteints de toxoplasmose et qui donc n'ont aucun symptôme, ont quand même, parce que normalement c'est une maladie de souris, et ça rend les souris moins prudentes, et ça rend les souris mâles, alors ça c'est un truc marrant, très excitées par l'odeur d'urine de chat. C'est-à-dire qu'en fait, ça rebranche la perception de l'odeur d'urine de chat sur l'excitation sexuelle. Du coup, quand un mâle souris sent l'urine de chat, il se met à tourner autour et puis il se fait bouffer. Et c'est comme ça que la toxoplasmose réinfecte le chat, qui est son hôte définitif. Alors, cette histoire-là, bon, nous, on n'est pas bouffé par les chats. Hein. Mais si on présente des odeurs d'urine à des mecs qui sont atteints de la toxoplasmose ou non, si on leur présente des urines de chat, ceux qui sont atteints de la toxoplasmose trouveront ça beaucoup moins insupportable, noté de 0 à 10, hein, le degré insupportable, que ceux qui ne sont pas atteints. On sait aussi que la toxoplasmose réduit la vigilance chez l'homme, bah, comme chez les souris d'ailleurs. C'est comme ça qu'elles se font choper plus facilement. Dans les accidents de la route, par exemple, vous avez une surreprésentation de gens qui ont de la toxoplasmose parce que ça diminue la vitesse de réaction. Bon, donc ça veut dire que les microbes peuvent manipuler notre comportement. Première chose, et c'est une première réponse. Maintenant, votre question est plus fine. Ça revient à dire, si par exemple Estelle et moi, on a les mêmes microbes, est-ce qu'ils peuvent nous conduire à faire des trucs qui les avantagent eux, peu importe pour nous, par exemple, à coopérer plus que si l'autre n'était pas porteur des mêmes microbes. Et ça, alors, on n'a pas de preuve chez l'homme, mais on en a une chez les drosophiles. C'est l'histoire de drosophiles qu'on élève soit sur des milieux riches en amidon, soit sur des mélasses sucrées. Et elles finissent par avoir des bactéries du tube digestif différent, puisque, on l'a dit, ce qu'on mange détermine peu ou prou le contenu de notre tube digestif. Et après, on fait des tests, on les fiche à copuler ensemble, et on regarde qui s'accouple avec qui. Et on s'aperçoit qu'elles s'accouplent pas au hasard, alors même qu'elles sont issues de la même famille initiale, simplement elles ont été élevées pendant quelques générations sur des milieux différents, elles s'accouplent avec celles qui ont mangé la même chose. Alors vous allez me dire, bon, c'est vrai que quand on mange de l'ail, par exemple, bah après, on a plutôt tendance à être moins incommodé par des gens qui mangent de l'ail, alors que ceux qui n'en mangent... Non, mais c'est plus compliqué, parce que quand on fait passer une bonne antibiothérapie à tout ce monde-là, l'ail s'accouple au hasard. On s'aperçoit que celles qui sont développées sur mélasse ont développé de grandes quantités de lactobacillus plantarum. Alors on se dit, tiens, on va leur faire une bonne antibiothérapie à tous, puis à certains, on va redonner du lactobacillus plantarum, et pas à d'autres. Et là, on s'aperçoit que ceux qui ont du lactobacillus plantarum ont tendance à s'accoupler entre eux, et à laisser s'accoupler entre eux ceux qui n'en ont pas. Donc vous voyez que dans le choix sexuel, à ce moment-là, les bactéries que contiennent ces drosophiles, donc des petites mouches, hein. Oui, j'ai parlé techniquement, c'est des petites mouches, voilà, qui sont très élevées en laboratoire, eh bien, les bactéries que contiennent ces drosophiles déterminent avec qui elles s'apparient sexuellement. C'est un truc de ouf. Et nous, on n'est pas préparés à ça, et je pense que j'ai pas beaucoup de collègues qui ont posé la question, parce que nous sommes des individus, nous sommes des esprits autonomes et capables de décision, et nous ne sommes pas du tout psychologiquement préparés à l'idée qu'une partie de ce qui dit « je » et de la façon dont il le dit, ce sont des microbes. Et ce n'est pas testé encore à ma connaissance. Et j'avoue que j'ai des collègues que j'essaie de pousser à ça, mais moi, je travaille sur les champignons associés aux plantes. Alors, je n'ai pas les outils ni la légitimité pour faire ces manips. Mais clairement, c'est une hypothèse qui est à peine posée, quoi. Et elle mérite d'être creusée. C'est vraiment une super question, ça.
Une question devant, peut-être ?
Bonjour, je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre à ma question. Très rapidement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec ce que vous avez dit depuis le début, on est un peu en train de trancher le débat, le faux combat des sciences dures et des sciences sociales, et que finalement on aurait une réponse absolue de l'inné dans les microbes, dans les sciences sociales, qui nous expliquerait pourquoi on est mis avec telle personne, pourquoi on coopère, etc. Est-ce que ce ne serait pas un peu simplificateur de voir les choses comme ça ?
Je pense que je vais faire une réponse globale. Je ne vais pas répondre à cette question si précisément. Je pense qu'il n'y a pas de hiatus entre les sciences sociales et les sciences biologiques. Je pense qu'il y a un continuum. Et je pense que toute explication qui ne repose que sur l'une des deux est une explication boiteuse. Et donc, l'essentiel des explications que nous proposons sont boiteuses. Moi, je fais partie de gens qui appellent, j'ai signé des articles avec des anthropologues et des choses comme ça, qui appellent à cette réconciliation. Dans mon livre, je montre des exemples où notre façon culturellement d'utiliser les microbes récupère exactement les mêmes fonctions que dans notre évolution, notre biologie a utiliser les microbes pour les mêmes fonctions de défense, d'aide à la digestion, de détoxification, de préservation, d'acidification. On retrouve les mêmes fonctions. Et finalement, vous voyez, dans l'évolution culturelle n'est pour moi, et c'est ce que je défends dans le livre, en particulier, entre autres choses, c'est que l'évolution culturelle n'est qu'un pan de l'évolution biologique. Cela dit, c'est pas parce que les éléphants et l'évolution des éléphants et l'évolution des bactéries sont des évolutions, que c'est les mêmes spécialistes qu'on utilise pour les deux, vous y êtes. Donc, clairement, on aura besoin de spécialistes des sciences humaines, évidemment. Simplement, ils se mutileront tant qu'ils nieront qu'ils ont quelque chose à apprendre de la biologie, et les biologistes se mutileront tant qu'ils ne verront pas l'évolution culturelle comme quelque chose qui peut enrichir leur vision de l'évolution en général.
Et je pense que ça va être le mot de la fin. On peut remercier notre invité. Je tiens à préciser que ce livre, qui est extraordinaire, est en vente dans la librairie à côté. Surtout que vous aurez le plaisir de pouvoir le faire signer par l'auteur demain à 17h30. Voilà, bonne continuation, profitez bien des Utopiales et merci d'être resté avec nous.
Merci beaucoup.